Ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 17h30, temps universel, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 15 mai 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, quatrième jour de mutinerie en Côte d'Ivoire.
Alors que les soldats mutins réclament le versement de primes impayées, la ville de Boaké, deuxième ville ivoirienne, reste toujours aux mains des soldats mutins. La confusion règne encore à Abidjan. Les tirs ont repris notamment dans le quartier d'Akodo.
5 employés de la Croix-Rouge ont été enlevés au Mali vers un possible vote de défiance à bulletin secret contre le président Jacob Zuma en Afrique du Sud. La Cour constitutionnelle entend les arguments. Et la France a un nouveau Premier ministre. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Nathalie Barge pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Mutinerie en Côte d'Ivoire, les armes crépitent depuis vendredi à Abidjan et à Boaké. Et des tirs nourris résonnaient encore ce matin à Boaké, épicentre du mouvement de colère des soldats. D'autres tirs ont été entendus en provenance des camps militaires d'Akwedo à Abidjan, malgré une nouvelle mise en garde de l'état-major des armées dimanche. Dans l'après-midi, les tirs ont cessé. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Quatrième jour de mutinerie en Côte d'Ivoire. Des tirs nourris ont été entendus lundi dans les deux plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Boaké, alors que les soldats mutins réclament le versement de primes impayées. La ville de Boaké, deuxième ville ivoirienne, reste toujours aux mains des soldats mutins. Les mutins paradèrent dans la ville en tirant en l'air. La confusion règne encore à Abidjan. Dans la capitale économique, les tirs ont repris notamment dans le quartier d'Akwedo, qui abrite la plus grande caserne du pays. Au plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan s'est vidé peu après 9h GMT. Des usagers s'étaient rendus dans les banques, mais n'ont pas pu avoir accès aux locaux en raison de la fermeture des établissements financiers et bancaires. Au sud d'Abidjan, la majorité des établissements scolaires privés et publics restaient ouverts. Ce matin, malgré les tirs, certains parents paniquaient et venaient chercher leurs enfants. Cet après-midi, les établissements se sont vidés. Les scènes de pillage sont enregistrées à Boaké selon des témoins. La maison du chef du protocole de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, a été pillée. Des armes et des munitions auraient été découvertes dans sa résidence à Boaké. Une mutinerie constatée dans plusieurs grandes villes du pays. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Nouveau rapto au Mali. 5 employés maliens du Comité international de la Croix-Rouge ont été enlevés hier soir dans la région de Mopti par des djihadistes présumés. Et déjà l'année dernière, des employés de la Croix-Rouge avaient été kidnappés puis relâchés quelques jours plus tard. Le point sur place avec Mamoudou Bokoum, notre correspondant à Mopti.
5 travailleurs du CICR ont été enlevés hier vers 22h à Togré-Koumbé, une localité située à 75 km de Ténénkou. Parmi les 5 personnes enlevées, il y avait une femme. Cette dernière a été libérée et les autres ainsi que leurs véhicules sont entre les mains des ravisseurs. Ces humanitaires étaient en mission dans cette zone, une zone poreuse depuis le départ de l'administration due à l'insécurité qui y règne. Actuellement, dans le delta intérieur du Niger, en plus des attaques, les groupes armés procèdent à l'enlèvement des agents de l'administration. Le dernier en date est celui de l'agent de l'UNPS, Mamoudou Bokouma Mopti, pour VOA Afrique.
Et signalons que le nouveau chef de l'État français Emmanuel Macron se rendra jeudi ou vendredi au Mali pour rendre visite aux troupes françaises de l'opération Barkhane. C'est ce qu'ont fait savoir les autorités françaises. Et week-end de violence au Nigeria, 20 agriculteurs qui priaient dans une mosquée ont été tués samedi par des éleveurs peuls dans le centre du pays. D'après la police, les hommes armés ont ouvert le feu sur les fidèles dans le village d'Etogi. L'attaque a été menée en représailles au meurtre d'un éleveur quelques jours plus tôt lors d'affrontements entre éleveurs nomades et agriculteurs autochtones sur le pâturage. Et près de Maïdougouri, berceau de Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, des djihadistes présumés ont tué 6 villageois qui travaillaient dans leur champ. C'était samedi. Et des hommes sont arrivés en moto dans le village d'Amrawa. Ils ont attaqué avec des machettes et ont volé des semences. Ils ont égorgé 6 paysans. Violence en Centrafrique, la France a condamné les récentes attaques meurtrières contre des casques bleus. Toute la lumière devra être faite sur ces actes odieux qui peuvent constituer des crimes de guerre et dont les auteurs doivent être traduits en justice, affirme le Quai d'Orsay. En moins d'une semaine, 6 soldats de maintien de la paix, 4 Cambodgiens et 2 Marocains ont été tués à Bangassou, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Et concernant la RCA toujours, selon Human Rights Watch, au moins 16 femmes et filles ont été abusées sexuellement par des militaires ougandais déployés dans l'est du pays entre 2009 et avril 2017. L'association de défense des droits de l'homme affirme avoir interrogé les victimes présumées dans la ville d'Obo. Forces spéciales américaines et soldats ougandais traquaient jusqu'au mois dernier, date de début de leur retrait, Joseph Kony, chef de l'armée de résistance du Seigneur. Résurgence de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le gouvernement nigérian a mis en place des mesures de surveillance à ses frontières. Des équipes sanitaires ont été déployées sur le terrain. Ils vérifient que les personnes qui arrivent au Nigeria ne présentent aucun symptôme de la fièvre hémorragique, expliquent les autorités. Le gouvernement fait état de 5 décès en RDC dus à l'Ebola. Au Soudan du Sud, selon les Nations Unies, 1,4 milliard de dollars sera nécessaire cette année pour aider 1,8 million de réfugiés. Le Haut Commissariat aux réfugiés et le Programme alimentaire mondial demandent donc une rallonge de 200 millions de dollars par rapport au plan initial de 1,2 milliard de dollars. L'Union européenne veut donner un nouvel élan à son partenariat stratégique avec l'Afrique. L'Europe entend dépasser son rôle principal de bailleur de fonds pour coopérer davantage sur la sécurité, le climat, l'économie ou l'immigration, indiquait sa haute représentante Federica Mogherini. Les dirigeants de l'Union européenne doivent se retrouver fin novembre à Abidjan. Ils doivent rencontrer leurs homologues africains pour un sommet qui sera centré sur comment offrir des opportunités aux jeunes en Europe et en Afrique. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle entend les arguments sur la possibilité d'organiser un vote de défiance à bulletin secret contre le président Jacob Zuma au Parlement. Et des milliers de militants d'opposition ont profité de l'occasion pour descendre dans la rue, réclamant une nouvelle fois la démission du chef de l'État, Jacques Aristide.
Nouvelle démonstration de force à Johannesburg devant la Cour constitutionnelle. Nous marcherons jusqu'à ce qu'ils partent, scandaient les opposants de l'Alliance démocratique et les combattants pour la liberté économique. Ces partis ont réuni leurs troupes pour soutenir leur action après avoir déposé cette motion de défiance contre le président Zuma à la suite du remaniement du gouvernement en mars dernier, marqué par le limogeage très controversé du ministre des Finances Pravin Gordhan. Monsieur Zuma, montré du doigt dans plusieurs scandales de corruption, avait déjà balayé d'un revers de main les protestations qu'il a qualifiées de racistes. Ses adversaires ont demandé le secret du vote au Parlement, persuadés de pouvoir retourner une partie des députés du Congrès national africain, surtout que la Grand-Une a également gagné les rangs de l'ANC, qui doit choisir en décembre prochain le successeur de Monsieur Zuma en vue des élections générales de 2019.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France a un nouveau Premier ministre. Édouard Philippe a été désigné par le président Emmanuel Macron pour former le premier gouvernement de son quinquennat. Portrait du nouveau locataire de Matignon avec Éric Maniarakiza.
Édouard Philippe a 46 ans. Il est l'élu de droite modérée, mais peu connu du grand public. Député et maire de la ville du Havre au nord-ouest de la France, Édouard Philippe est proche de l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Dans sa jeunesse, il a milité pour le socialiste Michel Rocard avant de rejoindre l'UMP, devenu les Républicains. Ce choix d'Emmanuel Macron reflète la volonté affichée de vouloir rompre avec les habitudes de la Ve République. Jamais un président social-démocrate n'avait nommé un premier ministre de droite. Monsieur Macron vise à attirer une partie de la droite pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale aux législatives du mois prochain. Un autre test de la recomposition politique promise par Monsieur Macron est attendu demain. C'est la formation du nouveau gouvernement. Mais déjà, Brice Hortefeux, proche de Nicolas Sarkozy, a lancé une flèche disant qu'un débauchage ne fait pas un équipage.
Lutte contre le groupe État islamique en Syrie. Des raids menés par la coalition internationale conduite par Washington ont tué au moins 23 civils à Boukamal ce lundi, près de la frontière irakienne. Les djihadistes avaient transformé des appartements en QG, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et c'est dans ce contexte que l'ONU ouvre un nouveau cycle de négociations demain à Genève, en Suisse. Et des pourparlers de paix parallèles se tiennent depuis janvier à Astana, au Kazakhstan, avec la participation de la Russie, l'Iran et la Turquie, alliés du régime de Bachar al-Assad. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump continue de chercher un nouveau directeur du FBI après le limogeage la semaine dernière de James Comey. Plusieurs noms circulaient dans la presse pour prendre la tête de la police fédérale. Pas moins de 14 personnes sont en lice selon Politico. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, Nathalie Barge, la Minute Écho.
L'Afrique n'est pas épargnée par la propagation du logiciel de rançon WannaCry. Selon les données de MalwareTech, un blog spécialisé dans ce type d'attaque, les pays concernés par l'attaque seraient le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Kenya, la Namibie, le Zimbabwe et Madagascar. Smart Africa et Cyberlibris ont signé un nouveau partenariat qui permettra aux universités et bibliothèques africaines un accès libre et plus rapide au savoir. Cela permettra de collecter des données sur la lecture électronique afin que la plateforme puisse répondre plus efficacement aux recherches. Nous essayons de combler l'écart en termes de contenu numérique entre les établissements universitaires du Nord et du Sud, a déclaré François Lascaux, président du conseil d'administration de Cyberlibris. La ministre sud-africaine de l'énergie, Mamoloko Kubayi, a annoncé la signature de nouveaux accords prochainement pour la relance du programme nucléaire civil. L'Afrique du Sud a signé ces dernières années des accords avec la France, la Chine, la Russie, les États-Unis et la Corée du Sud en vue de l'attribution finale du contrat nucléaire. Mais fin avril, la justice a suspendu trois de ces accords, donnant raison à des ONG qui dénonçaient l'opacité du processus. De nouveaux accords avec ces pays vont être signés, a dit Madame Kubayi, indiquant que la procédure sera soumise à l'examen du Parlement.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
On commence par la CAN des moins de 17 ans au Gabon.
Suite de cette première journée ce lundi, le tenant du titre, le Mali, sera face à la Tanzanie et en second match de la journée, Angola-Niger. Et hier, c'était un véritable festival offensif. Deux matchs, 10 buts. D'abord, le pays organisateur, le Gabon, qui a été surclassé d'entrée par le Sili National de Guinée, 5 buts à 1. Dans le second match, les Black Stars, les jeunes Ghanéens qui n'ont pas fait de détails devant le Cameroun. Le score 4-0, Guinéens et Ghanéens qui se partagent la première place de ce groupe A.
Le Burkina Faso, grand vainqueur du Tour du Bénin 2017.
Il a fallu attendre la dernière étape, un critérium de 80 km à travers les rues de Cotonou pour connaître le vainqueur de cette édition 2017. Abdulaziz Nikema succède ainsi à un autre Burkinabé, Mathias Sorgho. A noter que la cinquième étape de ce Tour du Bénin a été remportée par l'Ivoirien Abou Sanogo en 1h49 minutes et 52 secondes.
Football, transfert en Allemagne.
Le milieu de terrain guinéen Ibrahima Traoré a prolongé son contrat avec Mönchengladbach jusqu'en 2021. C'est ce qu'annonce le club. L'international de 29 ans était sous contrat jusqu'à fin 2018. En trois saisons avec le club, il a joué 87 matchs et marqué 13 buts.
Match en retard en Angleterre.
Manchester City qui tentera de garder son avance sur Arsenal dans la course à la Ligue des Champions, alors que les deux équipes s'affrontent à distance demain soir lors des derniers matchs en retard du championnat d'Angleterre. En cas de victoire des deux équipes, demain, tout se jouera dimanche lors de la dernière journée et Liverpool 3e entrera alors dans la danse. Une défaite éliminerait Arsenal, sauf si Manchester City s'incline aussi.
Et enfin, basket, NBA.
Golden State a souffert dans le premier match de la finale de la Conférence Ouest. Relégué à 25 points et longtemps méconnaissable, les Warriors sont venus à bout, 113 à 111 des Spurs de San Antonio, affaiblis par la sortie sur blessure de Kawhi Leonard.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. L'ONG Human Rights Watch dénonce dans son rapport publié ce lundi les abus sexuels commis par des militaires ougandais déployés en République centrafricaine. L'enquête a révélé qu'au moins 16 femmes et jeunes filles de la ville d'Obo ont été violées ou exploitées par ces soldats. Alors pour comprendre l'affaire, Dili Diko a joint à Nairobi Louis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch.
Nous avons documenté 16 filles et femmes qui étaient soit violées ou soit exploitées par les soldats ougandais. Parmi les 16, 15 qui étaient en santé. La plupart des filles et femmes sont des filles et femmes qui étaient déplacées par la violence, soit la violence par la LRA, la Lord's Resistance Army, soit par rapport à la violence dans la RCA en général.
Ce n'est pas la première fois qu'il y a des accusations comme ça. Qu'est-ce qui a été fait par rapport aux cas précédents, par exemple avec l'opération Sangari, s'il y avait aussi eu des accusations? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a eu des poursuites en fait?
Pour les Sangari et pour les forces onusienne, il y a une suite. Ce n'est pas idéal, mais au moins il y a une suite. Par exemple, en France, il y a une suite judiciaire. Jusque maintenant, nous, à Human Rights Watch, on ne croit pas que les juges d'instruction et les enquêteurs français, ils ont fait leur travail en RCA comme on veut. Mais au moins, il y a quelque chose. Même chose pour les forces onusiennes. Lorsqu'il y a une accusation contre un soldat onusien, directement, le soldat en question, il est réenvoyé chez lui. Mais franchement, la réponse de l'Union africaine par rapport à ce genre d'accusation, c'est presque rien. Il n'y a pas de suite de Addis Ababa, le siège de l'Union africaine, et il n'y a pas de suite de Kampala et du Ouganda.
Maintenant, ce qui va se passer pour ces soldats ougandais, c'est qu'aucune poursuite ne va être engagée. Ils vont donc pouvoir partir en toute impunité?
Pour le moment, oui. Malheureusement, ils sont en train de partir en toute impunité. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de lancer ce rapport aujourd'hui même, avant le fermeture officielle de cette force, parce qu'ils sont en train de fermer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et nous avons demandé les autorités ougandaises et les autorités de l'Union africaine de lancer une enquête.
Pensez-vous qu'on puisse réellement espérer un aboutissement de cette enquête?
Vu le comportement des autorités ougandaises, pour le moment, non. Mais si l'Union africaine demande Ouganda et faire un type de pression sur l'Ouganda, peut-être ça peut y aller. On espère.
Louis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch, joint à Nairobi par Dili Diko.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé ont annoncé vendredi une épidémie d'Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Selon le ministre de la Santé, le bilan est actuellement de 5 morts. C'est la 8e fois que la RDC est touchée par cette épidémie. Solange Nyamulisa a joint le docteur Miatudila Malonga qui a découvert le virus Ebola pour la première fois en République démocratique du Congo en 1976.
Ebola, c'est une maladie qui nous frappe sans prévenir. Le virus vit en Afrique centrale, dans la forêt. Et une grande partie de la forêt équatoriale se trouve en République démocratique du Congo. Donc la République démocratique du Congo est exposée au virus d'Ebola plus que d'autres pays. Donc le virus vit là-bas, dans la forêt. Et la population congolaise, de temps en temps, rentre dans l'écosystème du virus d'Ebola.
Quel est le nombre de morts enregistrés jusqu'aujourd'hui?
D'après le ministre, d'après ce qu'il a dit hier, il y a eu 5 morts sur les 9 cas qu'on a identifiés.
Quelles sont les mesures prises pour éradiquer cette maladie?
C'est la 8e fois que la RDC est attaquée par Ebola. Les 7 fois antérieures, la RDC a été capable de maîtriser l'épidémie en moins de 3 semaines. Et nous espérons que les mesures qui ont donné de bons résultats dans les épidémies passées vont être prises cette fois-ci également. Il s'agit d'abord, pour lutter contre Ebola, de donner la priorité à l'action de la communauté. Donc c'est la communauté qui doit se prendre en charge et les services de santé sont là pour soutenir le travail de la communauté. Et ce n'est pas le contraire comme on l'a fait en Afrique de l'Ouest. C'est la résilience des communautés congolaises appuyées par les zones de santé qui sont des entités, des petites entités décentralisées à travers toute la République. Ce sont ces entités-là qui soutiennent les communautés locales. Le niveau central, même le niveau provincial, viennent simplement en appui de l'action locale. C'est ça le secret de la lutte contre Ebola. Donc la recette que nous utilisons depuis 1914, c'est d'informer la communauté. Donc doter les communautés de la capacité de faire face à Ebola. Et c'est quoi? C'est simplement des mesures de protection. Il ne faut pas être en contact avec quelqu'un que vous soupçonnez être infecté. Mettre fin aux cérémonies traditionnelles que l'on connaît lors des funérailles. Faire attention à la consommation des viandes du gibier. Si la communauté prend ces mesures-là, on arrive facilement à mettre fin à l'épidémie. Il n'y a pas de médicaments jusqu'à présent pour traiter les cas d'Ebola. Et cette recette-là a donné de bons fruits jusqu'ici.
Voilà, c'était le docteur Miatoudila Malonga qui a découvert le virus Ebola pour la première fois en République démocratique du Congo. C'était en 1976.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
De l'inédit au Bénin, un citoyen administrateur des sociétés saisit la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de l'élection de Patrice Talon. Le président arguant de, je cite, l'achat de conscience des députés le 4 avril dernier lors du vote sur la recevabilité du projet de révision de la Constitution béninoise. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adamdé.
L'histoire politique du Bénin retiendra désormais ce nom, Adoté Viandro, cet administrateur des sociétés qui se dit exaspéré par la corruption galopante au Bénin qui a saisi l'opportunité des révélations de Rosine Viera Soglo sur l'achat de conscience des députés pour saisir la Cour constitutionnelle. Un recours en invalidité de l'élection de Patrice Talon, c'est l'intitulé de la requête. Pour les spécialistes des questions de droit, c'est un projet qui ne peut aboutir. Valentin Aronsou est juriste et observateur de la vie publique.
En invalidité du président de la République ne peut intervenir que lorsqu'on constate qu'il y a eu inscription de faux dans le dossier de candidature du chef de l'État. Encore qu'il faut établir clairement que le président de la République a de manière claire et nette procédé à l'achat de conscience des députés.
Pour le requérant, l'achat de conscience qui aurait motivé le vote de certains députés au cours des débats sur la révision ou non de la Constitution serait la goutte d'eau de trop. Les députés s'insurgent d'ailleurs contre ce qu'ils appellent diffamation sur le Parlement. Gérard Benucci est député à l'Assemblée nationale. Il est membre de la Commission des finances.
Personne n'a jamais tenté d'acheter ma conscience dans son vote. Je ne vois pas. Ce serait très malsain prendre l'argent avant d'exprimer mon vote. Alors là, je n'existe plus. Et je ne vois pas quel député pourrait accepter cela. Moi, je vote librement les lois. J'examine librement les textes de loi. Et je vote selon l'intérêt supérieur de la nation et selon ce que ma conscience me dit.
Et pourtant, l'Assemblée nationale a été toujours éclaboussée par ce genre de scandale où les voix les plus autorisées au sein de la société civile ont maintes fois dénoncé la facilité avec laquelle le Parlement, au lieu de contrôler l'action gouvernementale, préfère ne rien faire.
Ils oublient que consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, ils vendent leur âme, ils vendent leur conscience, ils vendent leur pays.
Pour certains Béninois, les députés, en tant que représentants du peuple, se doivent d'être irréprochables.
La question de la corruption et qui persiste et qui nous ruine aujourd'hui, simplement parce que nous n'avons jamais décidé d'aller à la phase la plus essentielle qu'est la punition. Donc c'est comme si collectivement nous acceptons un peu de cultiver cette impunité qui se fait favorable alors à ce foisonnement de situation. Cette mandature a un défi.
Y a-t-il eu, oui ou non, achat de conscience des députés le 4 avril dernier? C'est en apportant les preuves que le requérant pourra donner du poids à la demande déposée devant la Cour constitutionnelle, même si en l'état, la Cour constitutionnelle ne peut invalider une élection qu'elle a elle-même validée. Dans le rang des populations, on pense que dans un pays qui se respecte, la justice devrait s'autosaisir de cette affaire pour que si achat de conscience, il y avait eu, que les coupables subissent les rigueurs de la loi. De Cotonou, c'est Natula Adonné pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
On parle de quelques 200 000 victimes, essentiellement des entreprises, dans au moins 150 pays. Une cyberattaque mondiale est en cours depuis vendredi. Des millions d'ordinateurs subissent ce piratage qu'on appelle ransomware. Des machines informatiques sont prises en otage par un virus malveillant, puis des individus demandent une rançon. Pour en savoir plus, Bagé Sikoura a joint ici à Washington Drissa Dao. Il est expert en cybersécurité au compte du gouvernement américain.
Il s'agit essentiellement d'un logiciel malveillant qu'on appelle en français rançongiciel. Autrement dit, c'est un logiciel qui verrouille vos données et les auteurs vous réclament de l'argent en contrepartie pour pouvoir libérer vos données. Donc, c'est une rançon qu'on vous demande.
Et est-ce qu'on sait l'origine?
Jusque-là, on ne sait pas très bien de qui c'est parti. L'une des difficultés qu'on a avec ce genre d'attaque, c'est justement... Il est très difficile de retrouver les auteurs et très vite parce qu'ils utilisent un réseau d'ordinateurs connectés qui peut être des milliers d'ordinateurs et c'est très, très difficile de savoir d'où l'attaque vient.
Alors, on parle de plus de 200 pays. Hein. Est-ce qu'il faut beaucoup de monde pour lancer une telle attaque?
Non, pas forcément. Vous savez, il y a une technique qu'on appelle la technique du botnet. Le botnet, c'est quoi? C'est un ensemble d'ordinateurs que les hackers ou les attaquants prennent le contrôle et les relient entre eux. Et il suffit donc de demander à tous ces ordinateurs-là de lancer une attaque. Pour ce qui concerne cette attaque précise, ce que nous avons appris, c'est qu'il s'agit d'un logiciel malveillant qui a deux composantes. Une composante qui permet à la machine infectée ou l'équipement infecté sur un réseau de propager, c'est-à-dire de contaminer d'autres ordinateurs sur le même réseau, et une composante de rançon qui permet donc de chiffrer ou de verrouiller vos fichiers et à partir de là, on vous réclame la rançon.
Alors, il semble que l'Afrique n'a pas été très touchée. Hein. Comment on peut expliquer cela?
L'Afrique n'est pas touchée, c'est vrai. Il peut y avoir plusieurs explications. Vous savez que l'Afrique, d'abord, n'est pas aussi connectée au réseau Internet comme le reste du monde. Donc, ça, c'est dû au gap numérique qui existe entre l'Afrique et le reste du monde. La seconde explication, de mon point de vue, peut être due au fait que l'Afrique n'est pas connectée aux moyens de paiement comme le reste du monde. Vous savez que cette attaque consiste essentiellement à réclamer une rançon du moins, et voilà, pour la payer, il faut passer par une monnaie virtuelle. Et cette monnaie virtuelle qu'on appelle le Bitcoin, elle n'est pas accessible, de mon point de vue, à tout le monde en Afrique. Et les auteurs de cette attaque, naturellement, savent que réclamer de l'argent à des entreprises ou à des structures publiques africaines, ce serait peine perdue.
Voilà, c'était Drissa Dao, expert en cybersécurité ici à Washington. C'est la la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. Présentation Morken Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.